Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Une nouvelle secousse en Turquie, 2 semaines après le séisme dévastateur en Turquie et en Syrie. Au moins 6 personnes sont mortes, près de 300 sont hospitalisées. La secousse a aussi été ressentie au Liban. Un Palestinien âgé de 16 ans a succombé hier à ses blessures près de 2 semaines après avoir été touché à la tête par un tir israélien en Cisjordanie occupée. 9 personnes, noires ou métisses sur 10, disent avoir été victimes de racisme en France. Et c'est ce qu'indique un sondage réalisé par l'Institut Ipsos pour le Conseil représentatif des associations noires. Son cofondateur, Louis-Georges Tain, sera l'un de nos invités. Ce sera mardi prochain un colloque sur l'islam et la liberté de conscience, une rencontre organisée par la Fondation de l'Islam de France au Collège des Bernardins. Nous écouterons le président de la Fondation, Raleb Bencher. Le lancement de la 2e édition des Trophées de l'inclusion par le sport, piloté par l'APELS, l'Agence pour l'éducation par le sport. Vous entendrez Samir Gerza, directeur général de l'association. La terre a une nouvelle fois tremblé en Turquie après le séisme dévastateur du 6 février dernier. En Turquie et en Syrie, 6 personnes sont mortes après une secousse de magnitude 6,4. Hier soir, c'est arrivé dans le sud du pays. Près de 300 personnes ont été hospitalisées. La secousse a aussi été ressentie au Liban. Le Liban, où le ministre sortant de l'éducation et de l'enseignement supérieur a annoncé la fermeture aujourd'hui de toutes les écoles publiques et privées. Cela arrive 2 semaines après les séismes qui ont fait plus de 45 000 morts en Turquie et en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Avec ces mots, la poursuite des activités de colonisation d'Israël met en péril la viabilité de la solution à 2 États. Une déclaration approuvée par consensus par les 15 membres du Conseil, mais qui n'a pas la portée contraignante de la résolution envisagée la semaine dernière. Le Conseil exprime sa profonde inquiétude et sa consternation suite à l'annonce israélienne du 12 février concernant la légalisation de 9 colonies et la construction de nouveaux logements dans les colonies existantes. Un Palestinien âgé de 16 ans a succombé hier à ses blessures près de 2 semaines après avoir été touché à la tête par un tir israélien en Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère palestinien de la Santé. Depuis le début de l'année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 49 Palestiniens, dont des membres de groupes armés et des civils, et 9 civils israéliens. 9 personnes, noires ou métisses sur 10, disent avoir été victimes de racisme en France. C'est ce qu'indique un sondage réalisé par l'Institut Ipsos pour le Conseil représentatif des associations noires. En 2007, dans une autre étude commandée par le CRAN, 56% des personnes noires disaient avoir été touchées au moins une fois au cours de leur vie par des actes racistes. Le cofondateur du Conseil représentatif des associations noires, Louis-Georges Tain.
Vous avez raison, il y a plus de 15 ans, nous avions fait une étude, et dans cette étude, 56% des personnes indiquaient qu'elles étaient victimes de discrimination, 56% des personnes noires, donc on voit aujourd'hui qu'on en est à 91%. Cette augmentation ne m'étonne pas, pourquoi ? Parce que depuis 16 ans, rien ou presque rien n'a été fait. Donc quand il y a une maladie du corps social, c'est le racisme, et que la maladie n'est pas soignée, eh bien évidemment, elle se dégrade. Et par ailleurs, nous sommes dans un contexte économique difficile, et dans ces conditions, il est classique que les gens cherchent des boucs émissaires, et donc le bouc émissaire, c'est toujours évidemment celui qu'il faut discriminer, c'est le noir, c'est peut-être le migrant, celui qui est perçu comme étranger, bien que 80% des noirs de France soient français, mais enfin peu importe, même quand vous êtes martiniquais depuis le XVIIe siècle, vous êtes toujours perçu comme quelqu'un d'étranger, de différent. Donc tout cela explique cette augmentation qui est évidemment extrêmement alarmante.
Suite justement à cette augmentation, au résultat de cette étude, quel appel lancez-vous au pouvoir public ?
Il faut une véritable politique. Souvent quand on discute avec les dirigeants, ils disent « mais je ne suis pas raciste ». Je dis ben, « là n'est pas la question ». C'est comme si vous disiez à quelqu'un « il y a le réchauffement climatique », la personne disait « mais moi je ne suis pas pour la pollution ». Encore heureux. Mais qu'est-ce que vous faites contre concrètement ? Alors, il y a plusieurs choses que nous proposons. Par exemple, il y a, pour lutter contre les inégalités entre hommes et femmes, ce qu'on appelle le rapport de situation comparée. Dans toutes les entreprises d'une certaine importance, on doit avoir des chiffres pour savoir si, oui ou non, les femmes reçoivent le même salaire, les mêmes promotions, les mêmes formations. Eh bien, qu'est-ce qui empêche de faire la même chose pour toutes les personnes en fonction de leurs origines, de vérifier si les personnes d'origines diverses sont traitées de manière égale? Voilà quelque chose de concret qui permettrait d'avancer. Il y a aussi un problème aussi sur les données. La CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, fait chaque année un rapport, mais les Noirs, la plupart du temps, sont absents. On étudie très peu cette situation, ce qui fait que nous sommes obligés finalement de faire des études parce que ceux qui sont censés les faire ne les font pas. Donc voilà un problème. Un dernier exemple, la question des réparations et des restitutions. Il y a un enjeu colonial, un enjeu historique. Nous avons obtenu que M. Macron fasse quelques restitutions pour le Bénin et le Sénégal, mais cela ne représente même pas 1% de tout ce que la France doit et doit restituer aux pays africains concernés, de l'Algérie à Madagascar. Donc il y a un certain nombre de mesures à prendre pour que l'égalité et le respect soient au rendez-vous.
Comment se manifeste ce type de racisme aujourd'hui en France ?
L'étude montre que c'est surtout dans l'espace public et dans le monde du travail que les choses se passent. Bien dans le monde du travail, c'est tout simplement le fait que des gens qui sont pourtant diplômés, qui font toutes les démarches nécessaires, se rendent compte après un certain temps de choses un peu bizarres. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas du tout d'emploi. Bon, ça peut arriver, mais souvent, vous arrivez à l'entretien d'embauche, et là, il y a une petite surprise ou une question bizarre. On vous demande, est-ce que quand même vous avez une religion particulière? Vous voyez, ce genre de questions tout à fait déplacées, qui n'ont rien à voir avec vos compétences, sont évidemment des indices. Pareil pour le logement. Vous arrivez, on vous dit le logement est disponible, vous avez donné toutes les garanties, et quand on vous voit, on vous explique qu'il n'est plus disponible subitement. Alors ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois, on n'est quand même pas idiot. Et puis évidemment, dans l'expression publique, la hausse des scores de l'extrême droite en est un symptôme évident. On peut penser à Éric Zemmour, on peut penser, il a été quand même multirécidiviste, on peut penser à d'autres partis bien au-delà de l'extrême droite, puisqu'il y a aujourd'hui une lepénisation des esprits.
Le cofondateur du Conseil représentatif des associations noires, Louis-Georges Thym. Le président russe s'est exprimé devant le Parlement dans son discours annuel à la Nation. Vladimir Poutine a, sans surprise, justifié l'invasion de l'Ukraine. Le chef de l'État russe qui a accusé l'Occident d'être responsable de l'escalade du conflit en cours. Une allocution trois jours avant le premier anniversaire de l'offensive russe en Ukraine. Ce sera dans une semaine, le mardi 28 février prochain, à 18h, un colloque sur l'islam et la liberté de conscience, une rencontre organisée par la Fondation de l'Islam de France au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, dans le 5e arrondissement de Paris. Entretien avec le président de la Fondation de l'Islam de France, Arleb Bencher.
La Fondation de l'Islam de France organise un colloque dont j'ai la faiblesse de le qualifier de la plus grande importance. C'est un sujet relatif à la liberté de conscience. Je pense que les grandes institutions islamiques de par le monde et même en France doivent investir ce sujet crucial. Nous ne pouvons plus nous accommoder de la frilosité et de la pusillanimité des responsables religieux ou autres, ne serait-ce que sur le plan culturel et civilisationnel, quant à la question de la liberté de conscience. De ce point de vue-là, et sans nous attirer la moindre gloriole, nous organisons donc ce colloque. Il aura lieu au Collège des Bernardins. Et je rends hommage aux responsables du Collège des Bernardins de nous avoir offert le partenariat de la logistique et l'accueil qui nous va droit au cœur. Et ce colloque aura lieu le 28 février à 18h, mardi 28 février, dans la limite des places disponibles. Il y a même un engouement d'ores et déjà. Le public est cordialement convié pour assister aux travaux de ce colloque.
Alors c'est un sujet délicat, la liberté de conscience quand on est croyant.
Bien entendu, le sujet est très délicat. Il n'a été sérieusement abordé qu'au milieu du siècle écoulé, dans toutes les autres traditions, sauf que les grandes traditions religieuses l'ont abordé avec avec sérieux, avec clairvoyance, et il reste pour la théologie islamique ce que j'appelle un scotum. Pour les ophtalmologistes, un scotum est un point aveugle, c'est la lésion du nerf optique, c'est un scotum de la pensée théologique islamique. Continuer de nos jours à criminaliser l'apostasie, à punir ce qu'on considère être une hérésie, est une atteinte grave à la dignité humaine. L'option métaphysique, l'engagement de foi, les orientations spirituelles doivent se faire en totale liberté. Il n'incombe à personne d'être procurateur de Dieu ou d'imposer à autrui son salut malgré lui. Et a fortiori, dans une société sécularisée, dans un État démocratique, et surtout en ce qui nous concerne, dans une république laïque, la séparation des deux ordres, l'ordre temporel de l'ordre spirituel, commence déjà par le respect de la liberté de conscience.
C'est un sujet d'actualité pour vous aujourd'hui, Ghaleb Benchair, la liberté de conscience quand on est musulman, quand on est issu d'une famille musulmane en France?
Oui, en France et de par le monde. C'est un sujet d'actualité brûlante, raison de plus pour l'aborder avec calme, sérénité, froideur d'esprit, hauteur de vue, et dans des colloques nationaux et internationaux, pour laisser place à une parole juste, académique, universitaire. D'ailleurs, à notre colloque, il y aura des imams, des théologiens, et aussi le constitutionnaliste Yad Ben Achour, qui a inscrit la liberté de conscience dans la constitution tunisienne, l'unique pour l'instant qui reconnaisse cette liberté de conscience. Ailleurs, nous nous insurgeons avec force contre la judiciarisation de cette affaire de liberté de conscience. Il y a eu même des administrations qui voulaient punir les déjeuneurs du mois de Ramadan, enfin, qui n'observaient pas le jeûne, sous prétexte qu'il y avait là de la provocation et qu'il ne fallait pas le faire d'une manière aussi outrageante. Tout en tenant compte peut-être de l'ambiance générale, mais il n'incombe pas à l'administration de judiciariser ces questions-là. C'est une question à la fois d'accès à la modernité politique et intellectuelle, mais aussi, encore une fois, de respecter les principes fondamentaux de la liberté humaine et des droits humains. Pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire à ce colloque qui aura lieu le 28 février à 18h au Collège des Bernardins, à 18h précise parce que comme nous n'avons pas beaucoup de temps, on commencera à l'heure, il n'y aura pas le petit quart d'heure parisien et il suffit simplement de s'inscrire à contact@lafif.fr, lafif en un seul mot, L-A-F-I-F. L'AFIF comme la Fondation de l'Islam de France. Donc je répète, l'inscription se fait à contact@lafif.fr.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, Ghaleb Benchair, il répondait à Loïc Barrière. Emmanuel Macron a défendu ce matin la réforme des retraites. C'était lors d'un déplacement matinal à Rungis, en banlieue sud de Paris. La réforme qui prévoit de relever l'âge de départ de 62 à 64 ans suscite l'hostilité dans la rue, comme à l'Assemblée nationale. Le président français a plaidé pour un vrai débat dans la société sur le travail, tout en reconnaissant un contexte d'inflation difficile. Le lancement de la deuxième édition des Trophées de l'inclusion par le sport, piloté par l'Agence pour l'éducation par le sport. Le concours est ouvert à tous. Le directeur général de l'APELS, Samir Gerza.
L'Agence pour l'éducation par le sport existe depuis 25 ans. C'est une association qui a pour objectif d'insérer des jeunes par le sport dans des entreprises désireuses de recruter autrement. Et donc depuis maintenant 25 ans, on laboure le terrain à la fois en détectant les meilleures initiatives en la matière et puis nous-mêmes en mettant en œuvre des parcours d'inclusion par le sport à destination de jeunes talents éloignés de l'emploi et qui répondent à des besoins de recrutement de l'entreprise.
Alors vous organisez les trophées de l'inclusion par le sport, c'est la deuxième édition. Est-ce que vous pouvez nous parler du principe de ces trophées?
Eh bien l'inclusion par le sport a le vent en poupe. C'est tous les acteurs qui finalement utilisent le sport à des fins autres que pour de faire des champions. C'est utiliser le sport pour accompagner des jeunes, accompagner les jeunes vers leur insertion sociale et professionnelle. Et donc on a décidé avec la Fondation L'Équipe de lancer les trophées de l'inclusion par le sport pour précisément valoriser et mettre en lumière toutes les initiatives souvent locales qui sont mises en œuvre en la matière et qui finalement permettent par le sport à des milliers de jeunes de s'en sortir.
Et donc vous récompensez des jeunes mais aussi parfois des villes, des clubs ?
Oui, parce que beaucoup d'acteurs ont cette conviction-là et mettent en œuvre des actions qui ont cette finalité d'inclusion des jeunes par le sport. C'est la raison pour laquelle des villes, des entreprises, des jeunes eux-mêmes qui vivent des parcours exemplaires, des coachs, des éducateurs sportifs très performants qui utilisent le sport pour accompagner des jeunes vers l'emploi sont récompensés à travers ces trophées de l'inclusion par le sport. On est très très fiers de le faire avec le journal L'Équipe, qui est quand même un journal connu de tous et qui valorise la performance sportive. Eh bien, à travers les trophées de l'inclusion par le sport, L'Équipe, avec l'Agence pour l'éducation par le sport, a décidé de valoriser également la performance sociale du sport, ce qui est tout aussi important.
Dans la catégorie jeune, l'année dernière, vous avez récompensé Merwan Majidi, un jeune sportif au parcours remarquable. Vous avez beaucoup de candidats cette année. Vous attendez d'autres candidatures ?
Il y a des milliers de Merwan Majidi partout en France. Donc on appelle tous les candidats qui seraient intéressés et qui surtout par le sport s'en sont sortis, ont réussi à avoir des parcours exemplaires à la fois dans l'emploi mais aussi dans l'entrepreneuriat. Et bien tous ceux qui ont des choses à nous dire sur ce sujet et qui ont vécu des parcours assez exemplaires autour du sport sont invités à se faire connaître auprès de nous et auprès de la Fondation L'Équipe. C'est ouvert à tout le monde et on a parfaitement conscience que des Merwan Majidi, il y en a partout en France.
Alors comment faut-il faire pour être candidat à ces trophées de l'inclusion par le sport ?
Écoutez, on a un site internet appels.org. Il y a un appel à candidature qui est positionné. Il n'y a plus qu'à venir le consulter. Et puis, c'est très, très simple pour candidater et proposer finalement le parcours qui a été le sien pour pouvoir être récompensé.
Et puis, la cérémonie aura lieu dans un lieu emblématique, le Stade de France.
Absolument. Là aussi, le Stade de France est le théâtre de la performance sportive. Et bien comme l'année dernière, les trophées de l'inclusion par le sport et la cérémonie de récompense des trophées de l'inclusion par le sport auront lieu au Stade de France. C'est tout un symbole. Le Stade de France, c'est aussi le lieu où on doit valoriser la performance sociale du sport, tous ceux qui utilisent le sport à des fins d'accompagnement de jeunes vers l'emploi.
Le directeur général de l'Agence pour l'inclusion par le sport, Samir Guerza, au micro de Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très beau début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h18.